complexe zététique.
Peut-elle casser des briques?
Quoi?
Non, je sais.
Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs.
Le savoir est une arme d'instruction massive.
Ouais, tu calmes.
Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire.
Une épitaphe pour quelques copains.
Non, je sais.
Eh bien, on démarre du coup la rubrique zététique après quelques petits cafouillages. Et aujourd'hui, on voudrait essayer de se donner quelques clés pour lire soi-même une publication scientifique. Alors, toute l'année, mais peut-être encore plus en ce moment, on est exposé à des articles et à une médiatisation plus ou moins intense de la science. Cette médiatisation de la science, elle est faite à partir d'études scientifiques. On voudrait ici parler de quelques aspects foireux, quelques limites là dans la médiatisation de la recherche, et donner à chacun chacune les moyens de s'en prémunir un peu. Alors, on a évoqué dans des émissions précédentes différentes études scientifiques, en faisant notamment la critique de la première étude de l'IHU de Marseille sur l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Et ben ça nous a demandé de retrouver l'étude, de la lire, de la comprendre. Et c'est de ce processus-là dont j'aimerais parler. Quand un article de vulgarisation dans Science et Vie, par exemple, s'intitule « Microbiote, il peut soigner diabète, cancer, dépression » ou bien « Robots, leur intelligence dépasse déjà la nôtre » ou encore « Médicaments, ils soignent mieux les hommes que les femmes, les biologistes révèlent l'injustice », eh ben, notre espoir, c'est de donner les moyens à chacun chacune d'aller regarder par soi-même ce que dit dans le détail le papier de l'étude scientifique qui est à l'origine de la publication. Alors commençons par le bout de la chaîne dans ce processus, c'est nous. On vient de tomber sur un article avec un titre de ce genre. Ça paraît fou, ça donne envie de lire. Ben, c'est fait pour ça. Et c'est déjà un premier biais. Les revues dites de vulgarisation scientifique, ou les grands journaux, ont intérêt à vendre leurs papiers, leurs articles, et l'une de leurs armes, eh ben, c'est de faire des titres suffisamment aguicheurs pour appâter le chaland. C'est la même mécanique qui fait que, perdu sur YouTube, on finit par cliquer sur des vidéos du genre « Ce serpent est capable d'avaler une vache ». Alors c'est pas faute d'être au courant, mais moi ça marche quand même un peu sur moi. Malgré tout, c'est bien fait. En lisant l'article, on s'expose à un risque non négligeable qu'il y ait des raccourcis dans l'article, des approximations, des distorsions, des erreurs, dans l'interprétation que le journaliste fait des résultats de l'étude. Alors, il n'y en a pas toujours, et elles ne sont pas toujours d'une ampleur dramatique, mais il peut subsister un doute. Notamment parce que écrire des articles scientifiques de qualité, pour faire ça, les grands journaux nationaux ont besoin de journalistes de qualité, formés à la méthode scientifique et à un minimum de rigueur journalistique, voire au domaine dont ils ou elles parlent. Et alors attention, scoop ou jugement de valeur, c'est pas toujours le cas. Moi, j'attends d'un article de ce genre qu'à minima, il publie ses sources, notamment les références de l'étude en question, qu'éventuellement il donne la parole aux auteurs, autrices de l'étude pour la commenter, qu'en tout cas il donne la parole à d'autres chercheurs et chercheuses du domaine pour avoir leur avis sur la publication. Et qu'il mette les découvertes relatées en perspective par rapport à l'état de la recherche dans le domaine. Est-ce que cette étude va rebrousse-poil de l'ensemble de la recherche dans le domaine? Est-ce qu'elle confirme des résultats précédemment observés? Bref, qu'elle nous donne un peu de contexte. Mais tout cela, ça ne me suffit pas toujours pour trouver crédibles les faits annoncés. Alors, on peut parfois aller lire d'autres articles de vulgarisation un peu plus hard, un peu plus spécialisés, qui parlent de la même étude. Mais parfois, c'est nécessaire d'aller regarder par soi-même le contenu d'une étude. Et je pense que c'est un réel enjeu d'éducation à la science. Mon objectif étant que l'on sorte à la fois d'une confiance aveugle dans la science, du type « c'est publié dans mon journal, donc c'est publié dans une étude scientifique, donc c'est prouvé, donc c'est vrai ». Et je voudrais qu'on sorte aussi d'une défiance sourde qui serait du genre « c'est publié dans mon journal, mais les lobbies ont des intérêts, les scientifiques spéculent sans rien comprendre, et puis la science n'explique pas tout, ou que sais-je ». Alors ce que je souhaite, c'est pas du tout une posture relativiste, mais c'est une posture critique. Alors JB, je sais pas si tu... Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de mettre un petit moment de musique? Petite pause musicale, ou est-ce que j'enchaîne?
Tu peux enchaîner, je pense, c'est cool. Enfin, pour moi, je sais pas pour les gens du chat, mais moi, c'est cool, je suis content.
Allez, et ben, on continue. Alors d'abord, c'est quoi une publication scientifique? Mais ça part d'une étude. Une étude, ça peut être plein de choses, ça peut prendre plein de formes en fonction des domaines ou du type de recherche dont il est question. Mais en règle générale, on se donne un objet, on fait une hypothèse dessus et on va tâcher d'aller l'infirmer ou la confirmer. On va d'ailleurs plutôt tâcher d'essayer de l'infirmer. C'est-à-dire que l'étude, théoriquement, est construite pour réfuter l'hypothèse afin d'éviter un biais de confirmation, quelque chose qui serait du côté de « j'ai très envie que mon étude marche, donc je me donne les moyens pour qu'elle marche et je, voilà, je bricole un peu ». Une fois l'étude menée, les chercheurs et les chercheuses, elles soumettent leurs résultats dans une revue à comité de lecture. Elles soumettent leurs papiers dans une revue à comité de lecture. Alors, des revues à comité de lecture, il en existe des milliers, classées par domaine. C'est des revues qui sont destinées aux chercheurs-chercheuses, aux universités, plutôt, a priori, pas au grand public, mais voilà, c'est plutôt, elles ne sont pas faites pour ça. Et elles sont plus ou moins généralistes ou spécialisées. On a des revues comme Nature qui sont très généralistes, hein, qui vont pouvoir parler de géologie, de microbiologie, de physique. Et puis des revues qui sont relativement spécialisées, qui vont parler que de la recherche dans la lutte contre le cancer, par exemple. Alors, une fois soumis, le papier, comme on dit, est l'objet d'aller-retour entre le comité de relecture qui travaille pour le journal et les auteurs-autrices. Le but de cette étape, c'est d'obtenir suffisamment de précision pour évaluer la qualité de l'étude. Cela peut éventuellement entraîner la modification du papier, on va rajouter des éléments, on va modifier les conclusions, voilà. Et ensuite, si le comité de rédaction de la revue, le comité de rédaction de la revue se base, entre autres, sur l'avis des relecteurs-relectrices pour décider si oui ou non il publie l'article dans sa revue. Alors, on dit souvent que toutes les revues scientifiques ne se valent pas. C'est vrai. Elles sont plus ou moins sélectives et rigoureuses sur la qualité des articles qu'elles publient. Certaines étant très très regardantes et d'autres beaucoup moins, au point que certaines revues se font payer pour publier n'importe quel article. Ça existe. Alors comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Il y a différents outils qu'on appelle bibliométriques pour évaluer les revues et les publications. Le principal outil bibliométrique, c'est le facteur d'impact. On va faire très court, mais plus il est élevé, plus le journal est réputé prestigieux et exigeant. Alors Science et Nature, qui sont deux grandes revues, ont un score autour de 40, c'est parmi les revues les plus reconnues. Des revues peu reconnues, on a des revues qui ont 0,02 de facteur d'impact, par exemple. Alors, le facteur d'impact, qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure, excuse-moi JB, tu dis?
Comme Radio sans nous. On a un petit facteur d'impact.
Ah ouais. Le facteur d'impact mesure la visibilité d'une revue en calculant la moyenne des citations de chaque article publié dans cette revue. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est une évaluation quantitative qui a plein de limites et qui est l'objet d'énormément de critiques. C'est pas du tout quelque chose de qu'il faut prendre de manière absolue. Mais malgré tout, c'est un indicateur qui, à moi en tout cas, me sert à indexer mon niveau d'alerte méthodologique. Par exemple, si je lis un article dans une revue qui a un facteur d'impact inférieur à 1, eh ben, ça me donne une bonne idée de la rigueur du processus d'examen qui a déjà été appliqué. Et en l'occurrence, inférieur à 1, je m'attends pas à ce que le processus de relecture ait été très très rigoureux. Alors, pour autant, l'article peut être très bien. Où est-ce qu'on peut retrouver une étude? Comment on peut faire pour essayer de retrouver une étude? JB, tu peux préparer peut-être une petite musique parce qu'à la fin de cette partie, après on va passer à autre chose, donc tu peux préparer ça.
Okay.
Un premier moyen, c'est de chercher sur Google Scholar pour retrouver l'article scientifique. Alors on va retrouver, avec Google Scholar, si on a le nom de, alors le titre de du papier, c'est l'idéal, mais si on a le nom de la revue et le nom des auteurs-autrices, on va réussir à retrouver par exemple. On peut aussi aller regarder directement sur le site des universités ou des labos. On sait que ça a été fait par telle université ou tel labo dans telle université. Et bien, en allant dessus, on peut parfois retrouver certains des publis directement sur leur site. On peut aussi retrouver les articles scientifiques dans des plateformes de prépublication. Alors, par exemple, il y en a une qui est assez connue qui s'appelle Archive, ça s'écrit A-R-X-I-V, où on a aussi Biorchive, B-I-O-R-X-I-V. C'est des outils qui permettent une circulation plus large et ouverte de l'info dans le milieu de la recherche. Ça permet une relecture par les pairs plus rapide et plus large, etc. Bon, ça a aussi des inconvénients, mais Et sinon, et surtout, on peut utiliser Sci-Hub. Alors Sci-Hub, ça s'écrit S-C-I-H-U-B, et c'est un site qui permet un accès gratuit à une très très grande partie de la recherche. Seulement, son accès n'est plus possible en France depuis 2019. Une décision du tribunal de grande instance de Paris a fait, oblige les fournisseurs d'accès à bloquer l'accès à Sci-Hub. C'est vraiment très dommage. Seulement, on peut quand même y accéder. Je vous invite vraiment à le faire, à vous donner les moyens de le faire. On peut y accéder en utilisant Tor ou un VPN, c'est-à-dire qu'on va faire croire, on va passer par des serveurs qui sont dans d'autres pays pour accéder à Sci-Hub. Et une fois dans Sci-Hub, avec le titre de l'article, on retrouve la publication intégrale et c'est super. Est-ce que tu es prêt à mettre un petit coup de musique, JB, qu'on respire ?
Ouais, carrément. Vas-y, j'envoie si tu veux.
Super.
Alors j'envoie. Radio.
Sans nous.
Alors, la suite de la rubrique zététique autour de comment est-ce qu'on fait pour aller lire soi-même un article scientifique, en tout cas de se donner quelques pistes pour réussir à le faire. On avait des remarques dans le chat qui sont très pertinentes et des choses que je savais pas notamment. Dans le chat, on nous demande déjà que les liens dont je parle, notamment Sci-Hub, etc., pour retrouver les différents articles, elles soient dans le podcast de l'émission, donc on le fera. Et il y a aussi une remarque qui dit que plutôt que de passer par Tor ou un VPN pour accéder au site à Sci-Hub, là, le site dont je parlais, une autre solution, c'est de simplement ne pas utiliser les DNS des fournisseurs d'accès Internet. Alors les DNS, c'est les annuaires, c'est le truc qui, quand je tape un site, qui va aller se connecter à la bonne adresse IP. Quand je tape un site dans ma barre de recherche, et ben il fait le lien entre ça et l'adresse IP que je cherche à contacter. Et en utilisant d'autres DNS que ceux de nos fournisseurs d'accès Internet, eh bien, on peut contourner cette interdiction de consulter Sci-Hub en France. Donc merci pour ces compléments. Alors, on en était à, ça y est, on a mis le grappin sur l'article qu'on voulait regarder. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Bon, déjà, on a parlé, on peut regarder éventuellement dans quel journal ça a été publié. Ok, ça, on en a parlé. Maintenant, bon, un papier scientifique, ça fait aller à peu près entre 5 et 10 pages. Ça dépend sûrement du domaine de recherche, certes, mais moi, ce que j'ai regardé, on est autour de ça, 5-10 pages. Et c'est un peu standardisé dans le format. Alors déjà, le titre, il nous renseigne déjà pas mal, et on constate l'éventuel décalage avec ce qu'on a lu dans Science et Vie, dans les exemples que je donnais tout à l'heure. On peut se rendre compte que finalement, déjà, rien que dans le titre, ça a l'air beaucoup moins spectaculaire. Ensuite, on a le nom des auteurs et des autrices. Alors, il y a des infos à aller gratter parfois, de savoir c'est qui, ils ont publié quoi déjà, bon. Mais surtout, en principe, ici, il y a leur déclaration d'intérêt. Donc, si on soupçonne le fait que, mais est-ce que d'aventure, ils seraient pas un peu en collusion avec tel labo qui vend tel médicament, par exemple, ou qui produit tel médicament, eh ben, on devrait, théoriquement, le voir apparaître ici dans leur déclaration d'intérêt. Alors ensuite, la première partie d'une étude, c'est l'abstract. L'abstract, c'est un résumé en un paragraphe des éléments essentiels de l'étude, des résultats principaux et des conclusions qu'en sont tirées. À ce qui me semble, les abstracts sont toujours publics et accessibles à tous et toutes. Donc même si vous n'avez pas réussi à retrouver l'étude dans son intégralité, vous devriez pouvoir retrouver l'abstract. Ça suffit parfois de s'arrêter là pour comprendre que Science et Vie nous ont vendu du rêve ou de la merde. Et voilà, on peut s'arrêter là. Mais on peut aussi avoir envie d'aller dans le détail. Oui, vas-y, pardon, JB.
Et un ami de plus. Science et Vie.
Est-ce que j'entends vraiment très mal?
Non, ben c'est pas grave. Je disais juste un ami de plus pour Science et Vie. Vas-y, vas-y.
Continue. Un ami de plus pour la radio, ouais. Après Raoult, Luc Montagnier, Science et Vie, ouais. Et on s'est fait sans Science et Avenir, je crois déjà. Bref, les pauvres. Mais ils le méritent. On peut. Du coup, même si on peut s'arrêter à l'abstract, on peut aussi avoir envie d'aller dans le détail, voir si on trouve ça douteux, ça nous intéresse de comprendre comment ça a été fait, ben on peut aller regarder, c'est assez intéressant. Du coup, la deuxième partie d'une étude, d'une publication plutôt, c'est l'introduction. Alors, sa fonction, c'est de contextualiser la recherche, de dire quelles sont les recherches qui ont été déjà menées, qui sont reliées au sujet, qu'est-ce qui a motivé cette recherche, etc. Ça permet de prendre en compte le positionnement de l'étude par rapport aux études précédentes. Est-ce qu'elle est à rebrousse-poil ou est-ce qu'elle est dans le sens de ce qui a déjà été fait? Et si les résultats sont à contre-courant des recherches précédentes, il va falloir être nous-mêmes très exigeants sur la rigueur de l'étude. Comme on dit, des faits extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. C'est une petite maxime de zététique. Et de science en général. Si je peux l'exemplifier, cette maxime, si je vous dis qu'il y a une licorne dans mon jardin, vous allez avoir besoin de preuves plus extraordinaires que si je vous dis, plus solides, plus conséquentes, pour me croire, que si je vous dis qu'il y a un mouton. Voilà, ça paraît moins extraordinaire et donc moins improbable. Ok, la partie 3 d'une étude, c'est un peu le cœur du truc, c'est le matériel et les méthodes. Alors, matériel et méthodes, ça décrit les protocoles que les chercheurs et chercheuses ont suivis. Quels outils est-ce qu'ils ont utilisés? Où est-ce qu'elles ont utilisé? Pourquoi ces outils-là? Avec quels réglages éventuellement? Nous, on s'en fout des réglages, on n'a pas les appareils souvent, mais ça permet de savoir que c'est reproductible. Quand il n'y a pas les réglages, on peut se dire, déjà, c'est une limite méthodologique. On va savoir à ce moment-là, est-ce que c'est fait sur des humains, sur des souris? Est-ce que c'est de la recherche in vitro dans des éprouvettes? Bon. Dans la recherche médicale, par exemple, c'est ici qu'on comprendra dans le détail dans quelles conditions a été menée l'étude. Et on va regarder un petit peu, on va s'attarder. Par exemple, on va voir quelle est la taille de l'échantillon de patient. Une étude avec un petit échantillon n'est pas forcément mauvaise. Elle peut être très bien faite, très rigoureuse et donner des résultats concluants. C'est souvent une étape nécessaire de faire une petite étude, mais mécaniquement, ça limite la portée de ce qui est avancé. On évite moins facilement les biais statistiques. On va vouloir savoir, est-ce qu'il y a un groupe témoin, toujours dans le cas d'une recherche médicale, hein. Le groupe témoin, c'est une partie de l'échantillon qui nous sert de contrôle, de repère. Ça sert à limiter les facteurs de confusion. Si les personnes vont mieux, ben c'est pas forcément grâce au traitement. Donc pour mesurer l'efficacité du traitement, il faut théoriquement enlever tous les autres paramètres susceptibles de varier. Donc on va comparer les résultats obtenus par le groupe test qui reçoit le traitement aux résultats d'un groupe témoin qui, eux, reçoivent autre chose. Alors, il y a pas mal d'enjeux sur la manière dont le groupe témoin est défini. Il peut recevoir un placebo, par exemple, c'est-à-dire un médicament dont on sait qu'il n'a pas d'effet, c'est juste du sucre, c'est une fausse gélule. Ou un traitement dont l'efficacité est déjà démontrée, par exemple, pour comparer l'efficacité du nouveau traitement aux anciens traitements. Selon ce qu'on étudie, ces deux pratiques, un placebo ou un médicament déjà efficace, ça peut être pertinent, ça peut aussi poser des problèmes éthiques. Enfin voilà, ça dépend. on va savoir à ce moment-là de l'étude, donc dans la partie méthode, si elle est réalisée en double aveugle. Le double aveugle, c'est le fait de non seulement les patients ne savent pas si ils ou elles reçoivent un placebo ou le traitement, mais qu'également les soignants, au contact des patients, ne le savent pas non plus. Ça permet d'éviter une différence de traitement ou une différence, c'est pas de traitement au sens de produit, mais d'investissement dans le soin de la part des soignants. Du coup, seules les personnes qui traitent les données, parfois en temps réel, peuvent associer les résultats obtenus pour chaque patient, à un groupe témoin ou test. Et enfin, on va savoir à ce moment-là, est-ce que l'échantillon est randomisé? Random, ça doit vouloir dire aléatoire en anglais. Un échantillon randomisé, c'est un échantillon où la répartition entre le groupe témoin et le groupe test est faite aléatoirement. C'est aussi ici qu'on peut trouver les différents critères retenus par l'équipe de recherche. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? Qu'est-ce qui sera considéré comme un résultat positif ou un échec? Et ça va être défini au préalable. Des études qui modifient pendant leur étude, comme l'a fait le professeur Raoult, leurs critères, c'est tout claqué. Ensuite vient donc quatrième partie d'une étude standardisée, c'est le résultat. Alors les résultats, ils doivent être présentés à ce moment-là, théoriquement, ils doivent être présentés de manière brute, factuelle et non interprétée. C'est présenté sous forme de tableau, de graphique ou autre. Mais on notera ici, toujours dans l'exemple de la recherche médicale, que on va pouvoir constater peut-être des fois des toute petite différence entre les deux groupes observés. Et que cette toute petite différence, elle peut suffire à conclure à un effet et à publier. Je sais pas, on regarde un médicament qui fait baisser la tension et on considère que, effectivement, en moyenne, ça a fait baisser la tension de 0,01 point sur l'ensemble de l'échantillon. C'est tout petit, mais c'est significatif, c'est-à-dire on constate un effet et donc on publie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour avoir un usage thérapeutique. C'est pas dire que c'est suffisant pour être exploitable. Et ça, c'est une des limites. C'est parfois, en tout cas, comme ça que on se retrouve avec des gros titres incroyables et finalement des effets nuls. C'est que, ça suffit pour publier, mais ça suffit peut-être pas pour en faire quelque chose. Alors, c'est ici, donc dans la partie résultat, qu'il va falloir qu'on revienne un petit peu sur la taille de l'échantillon, parce qu'elle joue énormément dans la compréhension qu'il faut avoir des résultats. Plus l'échantillon est petit, plus on s'expose à ce que le hasard ait joué un rôle décisif dans les résultats. C'est ce qu'on appelle le risque d'anomalie statistique. Plus l'effet est grand et plus les groupes sont importants, plus les résultats sont solides. Ce risque d'anomalie statistique, il est mesuré par un indicateur, qu'on appelle petit p ou la p-value. Et vous la retrouverez dans cette partie-là, cette p-value. Chaque fois qu'on a un résultat qui compare deux groupes, ou on compare la corrélation entre deux phénomènes, on peut lui associer une valeur P, qui va notamment être liée à la taille de l'effet, à la taille de l'échantillon. Et plus la valeur P est faible, plus le résultat est solide statistiquement. Donc on considère en science qu'un résultat est statistiquement significatif, alors à partir de P inférieur à 0,05. C'est statistiquement significatif, c'est trompeur, parce que significatif, on l'utilise en disant, enfin dans le langage courant, ça veut dire
Ah, Manu, je ne t'entends plus. Est-ce que d'autres personnes t'entendent, d'autres personnes ne t'entendent pas? Où es-tu, Manu? Où allons-nous? Ah, eh bien, on va faire une petite pause musicale.
Radio sans nous, radio sans nous, COVID-19.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, il y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Fais que les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Hop, et on a retrouvé Manu sur Radio Sans Nous, même s'il y a des moments c'est un peu compliqué de s'entendre. C'est parti.
Alors, je ne sais pas exactement à quel moment j'ai été coupé, donc je vais reprendre un tout petit peu avant, enfin ce que je suppose être un tout petit peu avant. On est donc dans la quatrième partie d'une étude scientifique et on essaie de. Donc c'est la partie qui présente les résultats. On disait que ces résultats devaient être les plus factuels possibles à ce moment-là. Ils ne sont pas commentés, c'est juste les résultats bruts. Et que pour évaluer le risque d'anomalie statistique, on va regarder une valeur qui s'appelle la p-value. Et la p-value, elle doit être au moins, plus elle est petite, plus c'est solide statistiquement, et qu'elle doit être elle doit être inférieure à 0,05, cette p-value. Elle évalue le risque d'anomalie statistique. Je sais pas exactement qu'est-ce qui a été squeezé, donc je vais pas refaire tout le speech, mais ça vaut le coup d'y jeter un œil. Il y a des limites à ce critère, cet indicateur, il est limité, il pose des problèmes méthodologiques, mais il est quand même intéressant pour voir, pour avoir une idée de à quel point est-ce que les résultats sont solides. Si on est à 0,0001, il y a peu de chances que les résultats soient dus au hasard. S'il est proche de 0,05, il y a quand même un peu de chances que peut-être il y ait des biais comme ça. La dernière partie d'une étude, c'est la discussion. Alors ici, les auteurs interprètent les résultats. Ils les mettent en perspective, ils pointent les limites de leur étude, ils en font la critique, et ils suggèrent des recherches complémentaires pour y pallier. Voilà, c'est une partie qui est quand même pas mal intéressante, mais qui suffit pas en elle-même, parce qu'ils peuvent tirer des conclusions claquées de résultats, ils peuvent extrapoler en fait, ils peuvent extrapoler leurs résultats. Voilà. Bon, allez, on continue, c'est bientôt la fin, accrochez-vous. Quelques mots sur la question des... Donc là, on vient de faire un peu qu'est-ce qu'il y a dans une étude. Peut-être il faut se dire que les études sont pas... Elles sont, même si elles sont toutes structurées comme ça, il y a des études de nature différente qu'il faut peut-être distinguer. Il y a des études qui se servent d'un corpus de données existant. Par exemple, elle va s'appuyer sur... les réponses à des questionnaires sur un sujet mené depuis 20 ans par l'INSEE ou par une recherche précédente. On va prendre les données et on va mener une étude à partir des données. On a aussi des études qui, elles, vont construire ces données elles-mêmes, et donc construire tout un protocole d'enquête ou de recherche pour tester une hypothèse et pour aller chercher les données. Et donc, ça pose des enjeux différents, ces différents types d'études. On a des études qui s'appuient sur des données déclaratives, et donc et puis les données qui s'appuient sur des observations. Les données, les études qui s'appuient sur des données déclaratives, elles posent au moins le problème du biais de désirabilité sociale. Par exemple, quand on va parler de sexualité et qu'on va demander aux gens, on va leur poser des questions sur leurs pratiques sexuelles, sur leurs habitudes, etc. Eh bien, on peut s'attendre au fait que peut-être c'est pas ce que ces personnes nous disent, c'est pas exactement ce qu'elles font, parce que on a envie de... Voilà, c'est un biais de désirabilité sociale. On a envie de se plier à ce qu'on imagine être ce que l'autre attend qu'on réponde. Plus ou moins, mais bon. Et on a aussi les méta-études. Alors, les méta-études, c'est particulièrement intéressant. Ce qu'on appelle aussi l'état de l'art. C'est des recherches qui passent en revue l'ensemble des publications sur un sujet pour en faire une analyse globale. Et ces études, elles sont particulièrement utiles pour comprendre éventuellement pourquoi est-ce qu'on obtient des résultats contradictoires dans différentes études. Mettre le doigt sur les biais éventuels de certaines études en les comparant, et globalement, ça permet de prendre de la hauteur et de trouver les points aveugles dans un domaine de recherche. En l'occurrence, au groupe zététique, on s'était farci une méta-étude quand on s'était demandé on s'était posé la question de savoir est-ce que ce qu'on appelle la synchronicité menstruelle, c'est-à-dire le fait que les personnes qui ont des cycles menstruels, des règles, qui habitent ensemble, finissent par se synchroniser sur leur cycle menstruel respectif. On se demandait est-ce qu'il y a il y a eu de la recherche scientifique là-dessus. Donc il y en a eu, et il y a eu différentes études qui concluaient à différentes choses, des choses contradictoires. Et c'est la lecture d'une méta, enfin c'est la fait, déjà on fait une méta-étude sur ces différentes études qui permet de comprendre pourquoi les résultats sont contradictoires, et donc de mettre le doigt sur les différents biais de certaines recherches. Alors, il y aurait plein de détails à donner sûrement, mais c'est déjà long et je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Il me reste deux points qui me semblent importants. D'abord, il y a de grandes chances que la publication originale, une fois que vous l'avez retrouvée, elle soit en anglais. Et curieusement, c'est pas spécialement un anglais compliqué souvent, moi je trouve. C'est un anglais technique dans son domaine, mais avec des formulations plutôt simples. On est plus dans l'anglais international que dans l'anglais littéraire. Alors, si l'anglais c'est galère pour vous, un traducteur automatique ça rend bon service dans ces cas-là. Moi je vous encourage à pas vous décourager, à pas vous arrêter là et à tenter malgré tout de comprendre en traduisant sauvagement avec un traducteur automatique. Ça permet quand même d'approcher certains trucs. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que selon le domaine, selon votre maîtrise du sujet, eh ben, il y a des chances que vous ne compreniez pas grand-chose au détail de l'étude. Des fois, ça nécessite de passer quelques heures à faire des recherches pour commencer à comprendre des trucs. Mais vous découragez pas d'avance, il y a plein de sujets sur lesquels c'est carrément possible de comprendre pas mal de choses. Certains types d'essais cliniques en psycho ou en recherche médicale, certaines recherches en socio ou en histoire, je les trouve étonnamment accessibles. J'ai été surpris en tout cas de « Ah putain, en fait, ça se lit quoi ». Alors évidemment, si ce qui vous taraude, c'est dans un domaine très pointu de physique théorique ou que ça fait appel à des maths compliquées et que vous êtes largué là-dessus ou que ça parle d'une sombre histoire de microbiologie, je dis pas que c'est gagné. Mais un des pires trucs dans l'accessibilité à la science, c'est ce sentiment, entretenu parfois de part et d'autre, que c'est uniquement une affaire d'experts et que c'est pas pour moi a priori. Alors une autre astuce qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que parfois, sur les sites de prépublication dont je vous avais parlé de Archive ou Bioarchive, donc c'est des sites où j'en ai parlé, quoi. Des fois, la revue par les pairs se fait directement en commentaire. Donc vous avez la publication et dessous des commentaires de d'autres scientifiques du domaine, ou qu'on peut supposer du domaine, si, voilà, qui critiquent, qui pointent des limites méthodologiques, qui critiquent la portée de l'étude, ou au contraire, qui disent en quoi est-ce qu'elle est de qualité. Et ça, des fois, rien que de lire ça, ça permet de comprendre, en fait, de recontextualiser une étude et d'en limiter la portée ou d'en comprendre la portée. Si vous avez envie d'aller plus loin, de mieux comprendre ce que j'ai raconté, eh ben, il y a, moi, je vous conseille une vidéo qui utilise des exemples, des images, c'est hyper bien fait. C'est sur la chaîne Science Étonnante. C'est David Loipre qui tient cette chaîne et la vidéo s'appelle Comment fact-checker une étude scientifique. Pareil, je la mettrai en description du podcast. Et avant de conclure, un peu d'auto-analyse de nous autres qui faisons des émissions de zététique sur Radio Sans Nous. Ça fait quelques émissions qu'on parle d'études scientifiques ou de publications autour de la science qui sont un peu nazes, voire franchement désastreuses. Or, ça donne une vision trompeuse de la science. Nous, on ne l'apprend en ce moment que par le bout des trucs douteux. Et je voudrais pas que ce qu'on retienne, c'est la science, c'est pas fiable. Ce serait assez contre-productif. Mais bon, dans le contexte, c'est ce qui nous a semblé pertinent à traiter aussi pour élucider le rapport aux sciences de chacun chacune, pour démystifier la science. On pourra causer peut-être les prochaines fois d'études plus solides. Il y en a des très intéressantes sur les effets de l'acupuncture, par exemple. C'est plutôt intéressant sur la méthodologie. Ou on pourrait aller causer d'études en psycho de l'économie qui montrent comment on galère trop à manipuler de façon raisonnable certaines données, certaines décisions économiques, et que c'est assez généralisé. Voilà, on pourra réfléchir à ça peut-être la prochaine fois. Et ben, c'est fini pour l'émission zététique d'aujourd'hui. J'espère que ça a été. Et puis, je vais laisser JB conclure.
Eh ben, c'est pareil, je vais aussi dire que c'est fini pour Radio Sans Nous ce midi. Comme tous les soirs, on peut se rejoindre à 8h pour les petites histoires. Et puis demain midi pour les émissions habituelles du midi à 12h30. Et demain soir, on va avoir à 18h30 l'émission en arabe. Et je sais plus s'il y a du jeu ou pas demain soir. Souvent, il y a du jeu. En tout cas, il n'y a pas scène ouverte, je crois, cette semaine. Je crois que c'est la semaine d'après. Et puis des histoires tous les soirs et vendredi soir pour l'apéro chant. Voilà, bonne écoute, bon après-midi.
Radio sans nous, COVID-19.
Laisse la police, tout le monde, déteste la police.
Je m'attendais à cette petite difficulté. Vous semblez caresser l'illusion que je vais obéir. Quelle est la formule sans opposer de résistance?
Pour le 1er mai, Radio Sans Nous fait une journée entière de radio, une journée de rediffusion et de partage autour des luttes, autour des mouvements. Parce que le 1er mai, pour nous, c'est bien une journée où on construit nos luttes, où on les partage et où on s'inscrit dans une histoire du politique et une histoire des luttes ensemble. Voilà, réécoutez-nous le 1er mai.
Prometemos resistir a Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir a Carmela, ay Carmela.
c'est Radio Sans Nous.
Non, prenez des notes, hein, parce que je vais pas répéter. Hein.
Un témoignage à faire passer, une info à diffuser ou du temps pour filer un coup de main, bienvenue. Envoie-nous un mail à radio.sansnous@cma-pdll.org.
Comment ? J'ai pas compris. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Tu veux participer à une radio d'éduc pop ? Bah rejoins-nous.
Ah ça c'est vrai, ça vous intéresserait pas de participer ?
Ah oh, mais c'est pas possible ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous enfile avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, parole, cri, fornication, foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. Projet, vous voyez, je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec